Den Invité von der Redaktion.
Invité beim François Aulner, die neue Präsidentin vom Nationale Frau Ruth-Claudine Spelz.
Guten Morgen, Madame Spelz.
Guten Morgen.
Die versteht, die sind an der Belsch geboren, mit die lebt an deiner Zeit hier im Land und die sind auch Lützebäuer.
Ja, ja, ich bin auch Lützebäuer. Aber ich schwätze nicht ganz gut Lützebäuerisch, wenn ich muss aufpassen, wenn ich muss so und dann, das ganz live, wenn ich kann am Französisch in diesem Interview
Ja, die versteht Lützebäuerisch, aber für zu schwätzen ist besser auf Französisch.
Ja, ja.
Pas de souci, je l'espère en tout cas, Madame Spelz.
Merci.
Cette semaine, vous avez été donc réélue présidente du Conseil national des femmes du Luxembourg, le CNFL. Vous venez me corriger juste avant l'émission, parce que moi j'estimais que vous étiez élue nouvelle présidente. Mais expliquez-nous comment ça se passe.
Bon, le Conseil national des femmes du Luxembourg est une association, c'est une plateforme. Et sont membres des associations luxembourgeoises qui œuvrent en faveur des femmes en général. Notre système d'élection est assez particulier en ce sens que toutes les associations membres, elles sont au nombre de 13 pour le moment, sont représentées au conseil d'administration d'office et que les mandats de l'exécutif se font par tirage au sort chaque année. Et ce sont des mandats d'une année.
Et vous étiez présidente.
Oui.
Vous aviez de la chance d'être tirée au sort deux fois de suite.
Je ne sais pas si c'est une chance pour l'association, mais j'ai été tirée au sort à deux reprises. Donc, j'ai eu une interruption d'une année. Et puis,
un tirage au sort, donc.
Bon, c'est un tirage au sort. Et au niveau du tirage au sort, c'est une association membre qui est tirée au sort. Et c'est au sein de l'association membre qu'est désignée la personne qui va remplir le rôle.
Et donc, Madame Spelz, vous êtes présidente du CNFL, le Conseil national des femmes du Luxembourg. Le CNFL estime, selon votre communiqué en début de semaine, que la lutte pour les droits des femmes est loin d'être terminée. Est-ce le cas, même au Luxembourg ?
Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes est un combat de longue haleine qui a démarré il y a plusieurs années. On a eu des progrès notables les 50 dernières années, mais en revanche, avant l'égalité complète entre les hommes et les femmes, il reste certains thèmes à développer et sur lesquels nous devons prêter attention.
Quel thème, par exemple ?
Par exemple, la représentation des femmes au niveau des postes directionnels, la représentation des femmes dans la prise de décision, la représentation des femmes en politique. Il y a la problématique des salaires, à fonction égale. Salaire égal. Il y a la problématique du temps partiel dans notre travail, le temps partiel qui est essentiellement occupé par des femmes. Un tiers des femmes qui travaillent sont en temps partiel, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas la même proportion pour les hommes. En général, les femmes travaillent un tiers de temps, je pense, chaque mois en moins que les hommes.
Ouais.
Ce qui a un impact important, d'abord sur le revenu.
Oui, permettez-moi pour commencer donc avec pour commencer avec l'écart des salaires. Mais selon le Statec, en termes de salaire horaire moyen en 2022 au Luxembourg, les femmes auraient même gagné plus que les hommes.
Oui, dans certaines fonctions, parce que les femmes sont plus éduquées que les hommes, il y a plus de femmes diplômées que d'hommes, et donc elles occupent des postes qui sont mieux rémunérés. Mais en revanche, c'est comme vous dites, c'est un salaire moyen.
Et horaire.
Qui ne tient pas compte de la façon dont les femmes travaillent, et donc du temps de travail. Donc en termes de revenus, elles ont moins de revenus que les hommes, d'une part. Et d'autre part, même si cet écart de salaire se réduit en taux horaire moyen, ça ne résout pas le problème des pensions, où les femmes ont des pensions de jusqu'à 40% inférieures aux pensions des hommes.
Et ça, c'est par rapport à la maternité, notamment, ou comment ça s'explique ?
Non, c'est par rapport au temps de travail et des interruptions de travail.
Oui.
Donc, la carrière, si vous voulez, il y a des interruptions de travail, même si en matière de maternité et d'études, un certain nombre d'années, on en tient compte pour la durée de la carrière. Mais en revanche, pour ces périodes-là, il n'y a pas de cotisation versée. Donc, sur le temps d'une carrière, la carrière peut être complète en termes de temps, mais pas en termes de cotisation.
Madame Spelz, selon votre CV, vous êtes aussi depuis longtemps très active dans le secteur immobilier. Permettez-moi donc de poser la question par rapport au logement, car les femmes souffreraient davantage des prix élevés, étant donné que 80% des familles monoparentales sont des mamans avec leurs gamins.
C'est évident que la crise de logement et le manque de logement à prix abordable a un impact important sur les femmes. Elles ont du mal à trouver des logements pour ce point-là, donc question de revenus, surtout des femmes avec les enfants. Donc ce sont les parties les plus concernées par le risque de pauvreté, voire de la pauvreté. Ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, en termes de garantie locative, en termes de garantie de paiement de loyer, il y a une réticence de la part des propriétaires de louer des biens à des femmes seules, fortiori avec des enfants.
Et vous connaissez bien aussi les agents immobiliers.
Oui.
Est-ce qu'ils peuvent accepter ce genre de discrimination demandée par les propriétaires mandataires ?
Là, je suis catégorique. Un bon professionnel n'accepte pas des injonctions à discriminer. Il ne va pas accepter ce type d'argumentation de la part d'un propriétaire ou de quiconque. Et il va faire ses dossiers de manière objective et présenter des dossiers objectifs au propriétaire qui, en définitive, en dernier lieu, c'est lui qui va choisir son locataire, en principe.
Et comment empêcher un propriétaire ? Parce qu'un propriétaire peut décider à qui il va louer son bien.
Absolument.
Il peut discriminer, même si c'est...
Non, il ne peut pas discriminer.
Mais on ne peut pas prouver la discrimination.
On peut la prouver. Il y a différentes techniques qui permettraient de la prouver. Mais en revanche, en termes de propriétaire, lorsqu'on se trouve face à un propriétaire qui vous enjoint de discriminer, vous pouvez décortiquer un petit peu l'argumentation. Et il y a des organismes à Luxembourg qui accordent une aide pour le faire. Il y a le CNPD, par exemple. Il n'a pas voie punitive pour le moment. Je sais
qu'on est... le Centre d'égalité de traitement.
C'est le Centre national pour l'égalité de traitement.
Oui, voilà, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Et donc, eux, ils ont mis à disposition aussi bien des propriétaires que des professionnels de l'immobilier, des petits livrets qui expliquent comment décortiquer avec des exemples concrets les situations discriminatoires. Mais en revanche, toute cette problématique, il y a les lois, la loi est là, mais nous savons tous qu'une loi, il faut du temps pour qu'elle imprègne les mentalités, et ça ne se fait pas en quelques années. Donc il faut beaucoup travailler là-dessus pour le faire. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'un professionnel ne doit pas accepter ce type d'argumentation. Mmh. Et je dirais même plus loin, il devrait le noter dans son mandat, qu'il ne discrimine pas au sens de la loi.
Et Madame Spelt, l'urgence en termes de logement est encore pire pour les femmes victimes de violences. Oui. Et le Conseil national des femmes le répète souvent, il manque des foyers au Luxembourg.
Oui, les foyers sont en général occupés à 100%, voire même plus. Notre foyer sud du Conseil national avait un taux d'occupation en 2023 de 122%.
Des femmes ont dû partager une chambre ou
Parce qu'on tient compte des enfants aussi. Hein.
Ah,
nous avons 11 chambres qui sont pour deux personnes. Et donc, quand il y a des enfants, etc. Donc, il y avait un taux d'occupation important. C'est la problématique aussi. Hein, c'est que les femmes victimes de violences sont pratiquement obligées de rester dans le contexte de violence faute de place d'accueil.
Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec le nouveau gouvernement
pour
améliorer la situation ?
Oui, absolument. Ouais. Nous avons eu des contacts avec le nouveau gouvernement. Contacts très positifs.
Ils sont conscients du
problème. Madame Bacoste est très, très ouverte à l'argumentation et la coopération va se faire de manière très positive, comme par le passé aussi c'était positif. Et on voit qu'on est sur la même voie de coopération et de travailler ensemble, disons, pour l'amélioration des situations.
Et une augmentation des capacités en foyer est-elle en vue ou...
C'est un problème budgétaire aussi. Hein. Nous sommes en période difficile au niveau des budgets, etc. Il y a des tas de demandes qui sont faites. C'est vrai que c'est en vue, mais... On aurait besoin aussi de capitaux privés pour investir là-dedans, hein, ça c'est sûr.
Le message est passé.
Le message, oui.
Madame Spelt, même entre les femmes, il existe des divergences de vues ou d'idéologie en ce qui concerne la place de la femme dans la société. Il y a 4 ans, le CNFL excluait aussi la FNFL de la fédération d'Astrid Lulling. Suite à un verdict, vous étiez obligé de la réintégrer donc dans la plateforme, comme vous l'évoquiez. Comment se passe désormais le vivre ensemble avec Astrid Lulling ?
Mais je vais vous dire que nous sommes, le vivre ensemble se passe bien. Nous avons, dans le cadre de ce jugement, c'est un jugement que nous acceptons et pour nous c'est du passé, on n'y revient pas. En revanche, il faut que les associations fassent attention à leur statut et de bien libeller clairement les conditions d'exclusion d'une association. C'est ce que nous avons fait. Une association peut être exclue lorsqu'elle défend des thèses qui ne sont pas adoptées par le Conseil national des femmes. Donc, dans le cadre de la représentation du Conseil national, c'est évident que nous avons des objectifs à défendre.
Mais il existe donc, des divergences de vues au sein même du...
Bah, les divergences de vues, là, les divergences de vues, elles sont là pour être discutées, pour arriver à un consensus. Donc, il y a des thèmes très importants qui peuvent apporter des idées très, très divergentes, comme par exemple l'avortement. C'était une question qui a été discutée. Mais on arrive à avoir des points de vue communs. Et lorsqu'on représente le Conseil national des femmes, sur ces thématiques-là, on représente le consensus du Conseil national des femmes et pas des opinions privées.
Voilà,
donc c'est là-dessus qu'il faut être très clair et c'est là-dessus que nous pensons que les associations doivent faire attention comment sont libellés leurs statuts.
Et les divergences existent un peu partout dans la société, évidemment.
Nous sommes une société démocratique, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, le droit d'exprimer ses opinions. Ouais. On est dans un système de respect de l'opinion de l'autre et d'arriver à un consensus sur différentes thématiques qui peuvent parfois être très, comme vous l'avez dit, très divergentes.
Eh bien, Madame Spelz, merci beaucoup pour ces explications et votre visite en nos studios, la présidente du Conseil national des femmes.
Je vous remercie de m'avoir accueillie.